Bonjour William Mesguich. J'avais envie de vous interviewer justement parce que je suis votre parcours depuis très très longtemps maintenant et je voulais faire connaître votre travail aux auditeurs de Music Box. Donc vous êtes issu d'une famille d'artistes, donc maman, femme de lettres.
C'est ça, ma mère était prof de français pendant une quarantaine d'années. Elle a été aussi, elle a travaillé aussi au rectorat de Paris pour agréer les compagnies professionnelles à la fin de sa carrière. Donc elle est, elle baigne dans l'univers littéraire, depuis toute jeune.
Et papa, donc on le présente plus maintenant, donc Daniel Mesguich, comédien, metteur en scène, ancien directeur donc du Conservatoire national supérieur d'art dramatique pendant des années.
Oui,
donc
professeur 31 ans dans cette école et directeur 6 ans. Moi, j'ai raté le premier tour à un point et j'avais 23 ans. Je le tentais un petit peu tardivement et ensuite je n'avais plus de possibilité de le retenter. J'ai raté le premier tour et donc j'ai pas pu aller au second.
D'accord.
Mais ça m'a pas empêché de faire la route
et de faire la carrière qu'on connaît aujourd'hui
et de faire mes classes théâtrales chez Pierre Debauche, grand homme de théâtre qui a fondé le Théâtre des Amandiers à Nanterre, notamment, qui a été le directeur du Théâtre Daniel Sorano à Vincennes, du Théâtre Aimé Césaire à Fort-de-France, qui a créé les Francophonies à Limoges, le fameux festival autour de la parole francophone, de l'écriture francophone. Et il a été le professeur Pierre Debauche de mon père au Conservatoire National d'Art Dramatique Supérieur dans les années 70. Donc il y avait une sorte de filiation, d'héritage. Et il s'est exilé, si j'ose dire, Pierre Debauche, à Agen, dans le sud-ouest. Et c'est là que pendant 3 ans, j'ai appris, j'ai rencontré mes compagnons de route. Et c'est là que la frénésie du théâtre s'est emparée de moi, si j'ose dire, en tout cas, que j'ai plongé à corps perdu dans ce domaine.
D'accord. Comment vous arrivez à porter cet héritage, en fait?
D'abord, j'en suis très fier de m'appeler Mesguich. À un moment donné, ça a été très difficile pour moi. Je vais revenir un tout petit peu à la jeunesse de cette aventure-là, théâtrale et humaine et familiale. Ça a été très dur parce que des gens m'ont très vite jugé, j'ai pas été très accepté parce que mon père souffle le chaud et le froid dans le théâtre français depuis 45 ans. Des gens qui l'aiment beaucoup, des gens qui l'apprécient moins. Et avec mes sœurs, deux de mes sœurs qui sont comédiennes et metteuses en scène, on subit un peu les soubresauts de ces relations parfois un peu tendues, conflictuelles avec les gens du métier, avec la presse, avec les programmateurs, avec l'institution. L'héritage est lourd parce que mon père est quelqu'un d'assez prestigieux, bien sûr, de connu, de reconnu, qui a fait des grandes choses. On a 20 ans d'écart, c'est pas beaucoup. C'est un jeune papa, et quand il était au conservatoire, je suis né à ce moment-là. Et en même temps, c'est pas un grand frère, mais en même temps, il y a une différence d'âge qui est très souhaitable parce que je profite de mon père encore. Il est en pleine forme et j'ai joué beaucoup avec lui et sous sa direction. Et je continue à jouer avec lui sur scène, deux spectacles. Et puis, je suis heureux d'avoir un père jeune. Et en même temps, ça a été aussi une difficulté pour moi de cohabiter, si j'ose dire, avec cette ombre tutélaire, avec ce personnage incroyable, ce patriarche qui nous a beaucoup appris, à mes sœurs et à moi, et qui m'a donc beaucoup appris. Quelle que soit la chose que je voulais faire plus tard, mes parents ont toujours été très attentifs à ça, très, très près de nous, très bienveillants pour tout ce qui était...
Notamment les lettres, vous aviez quand même des prédispositions au niveau de...
En tout cas, j'ai toujours aimé la poésie. Mon père nous a toujours lu des histoires incroyables quand on était plus jeunes. On baigne dans un univers, poétique, littéraire assez prononcé, assez marqué. J'ai joué à l'âge de 8 ans et 9 ans sous la direction de Roger Planchon et Antoine Vitesse, deux grands metteurs en scène, bien sûr, du XXe siècle, que mon père connaissait. Donc c'était à l'Odéon et à Chaillot, c'était dans Athalie de Racine, bien sûr, et puis dans Hippolyte de Garnier, qui préfigure le Phèdre de Racine. C'était des aventures incroyables, j'avais 9 ans et 10 ans. Et puis à un moment donné, je me suis un peu éloigné parce que j'avais des amis que ça intéressait un petit peu moins, le théâtre, parce que voilà, le football m'a entraîné ailleurs, si je veux dire, sur un autre territoire,
sur un autre terrain.
Voilà. Et effectivement, à l'âge de 17 ans, 18 ans, je m'y suis de nouveau vraiment intéressé. D'accord. Et un jour, à 20 ans, donc un peu tard, enfin tard, rien n'est jamais trop tard, mais tard par rapport, par exemple, à mes petites sœurs qui ont toujours suivi le sillage de Daniel depuis toute petite, depuis l'âge de 4-5 ans.
Elle savait, sans doute,
il y avait vraiment des prédispositions, une envie comme ça. D'accord. Moi, pas forcément. J'aurais pu être prof de français, journaliste. J'avais d'autres aspirations. Oui. J'aurais pu écrire des romans. Je ne sais pas être auteur.
Mais vous êtes tombé dedans.
Mais je suis un peu tombé dedans. Voilà, donc ça m'a aussi.
Dans la marmite, comme Obélix.
Voilà, ça m'a un peu rattrapé. Et un jour, j'ai dit à mes parents je veux faire du théâtre. Ils ont été interpellés parce que j'avais 20 ans, j'étais en licence de lettres modernes. Je préparais une maîtrise et j'allais peut-être aller plus loin avec une thèse, je ne sais pas, mais un DEA à l'époque, c'était pas là. Et puis finalement, mon père, mes parents ont dit mais pourquoi pas? Écoute, tente ta chance, mais ma mère, la première chose qu'elle m'a dit, ça va être très dur pour toi. Et ça a été très dur quand j'ai intégré l'école de Pierre Debauche à Agen. déjà les regards étaient
cristallisés.
Oui,
sur
un
vous,
tout petit
quoi.
Peu. Voilà, il y avait quelque chose de très ciblé. Ouais, alors William Mesguich, fils de Daniel Mesguich. Ouais, oui, et alors, ce qui est incroyable, c'est que Pierre de Beauche jouait dans Hippolyte de Garnier, jouait Thésée. Donc il y avait quelque chose qui nous reliait entre mon père, qui a été son élève à Pierre de Beauche au Conservatoire National d'Art Dramatique pendant 2 ans, avec lequel il a un peu révolutionné l'art de la pédagogie avec Vitesse et d'autres, c'était les modernes contre les anciens à l'époque. Et mon père faisait partie de ceux qui postulaient pour être aux côtés de ceux qui étaient les modernes, c'est-à-dire Debauche et Vitesse, qui travaillent sur la langue, sur le sens, et non pas un théâtre un peu plus ancien, le théâtre de la Comédie française de l'époque. Un petit peu
Louis
confortable,
Jouvet,
voilà. Lise Delamarre, Jean Meyer, Robert Manuel, qui étaient les tenants d'un théâtre un peu confortable, un peu lourd. Enfin, il y avait des choses magnifiques, mais c'était pas du tout le théâtre.
Moins naturel dans la façon.
Non, pas forcément. Enfin,
ça,
oui, naturel
non,
aussi,
enfin,
mais moins de réflexion autour de la parole, de la pensée théâtrale.
D'accord.
C'est-à-dire que dans les années 70, entre la psychanalyse, entre. Je sais pas, Deleuze, Bourdieu, Derrida, tous ceux qui ont fait avancer le rapport au sens, Genette, Todorov, le rapport à la langue, le rapport au signe, au signifiant, au signifié.
Lacan.
Au Lacan, bien sûr. Ça échappait totalement au tenant d'un théâtre un peu plus classique.
C'était les classiques contre les modernes.
Oui, voilà,
un peu,
d'une certaine manière, un peu comme avec Boileau à l'époque. Et La Fontaine, etc. Et il y avait quelque chose qui avait à voir avec ça. Et donc, Debauche est un personnage qui a beaucoup compté dans ma vie. Il m'a permis d'appréhender cet héritage, si j'ose dire, puisqu'il a été aussi le relais, étant plus âgé que mon père et que moi, mais le relais entre mon père et moi. Ensuite, j'ai joué des toutes petites choses avec mon père pour voir ce que ça faisait, et donc des rôles moins importants. Et petit à petit, j'ai appris, j'ai créé ma compagnie chez Debauche. Ouais. Et l'héritage, je l'ai fait mien parce que je ne peux pas nier que mon père est un ensemble de théâtre, et on s'entend plutôt très bien, et je l'admire infiniment, mais il m'a fallu faire mes preuves, il a fallu que j'apprenne, que je sois dans une sorte de chose un peu laborieuse, au sens latin, du travail, au sens noble aussi du terme, c'était pas laborieux, genre non, j'apprenais, je travaillais, j'ai travaillé des scènes, je voulais sans doute un peu combler,
ça se faisait
compenser.
Pas dans la douleur quand même.
Non, je souffrais sans doute un peu, il faut dire la vérité, d'être dans l'ombre de mon père. Il était à 40 ans, quand moi j'ai décidé de faire du théâtre, il était une sommité, enfin, il avait créé la Cour d'honneur, à l'Opéra Garnier, il jouait avec Deneuve, il côtoyait Adjani, Chéreau,
enfin, Barrosen.
Oui, Robert, pas tout, il était
les grands.
Oui, il passait à la télé régulièrement, il passait dans des téléfilms, il passait aux journaux télévisés, enfin, c'était quelqu'un qui comptait, il compte encore, mais qui comptait infiniment, vraiment. C'est dur d'arriver derrière parce que je viens de loin finalement. Paradoxalement, je viens de loin et donc j'ai dû trimer, comme on dit,
faire
j'ai
vos
dû
preuves.
Voilà, mettre le bleu de chauffe, enfin, et chercher, me tromper, douter, recommencer et peut-être combler non pas le déficit de talent que j'avais à l'époque. Je sais pas si j'avais un déficit de talent, mais en tout cas, j'étais pas comme mon père. On n'est pas les mêmes. Forcément, on n'a pas le même parcours. Et je, encore une fois, avec le football, j'étais entraîné ailleurs. Donc il a fallu que j'avance, que je cherche, que je tâtonne. J'ai créé ma compagnie à l'occasion de mon apprentissage chez Debauche, et c'est là que j'ai pris mon envol, parce qu'il était hors de question que je joue sous la direction de mon père uniquement. Ça aurait été facile, il y en a qui le font, enfin facile. Pas facile, mais ça n'a pas été toujours facile, même si j'ai joué avec lui, mais sous la direction. Mais en tout cas, c'était le confort, ça aurait été peut-être de jouer à ses côtés, puis de faire des castings, tenter des pubs. Et là, en m'exilant à Agen, j'ai vraiment tenté l'aventure artisanale du théâtre, avec la rencontre avec des compagnons de route, et j'ai créé ma compagnie, et je suis parti très vite sur des projets qui m'appartenaient. Et d'un côté, j'avais mon père, d'un autre côté, ma compagnie, ce qui, 25 ans plus tard, m'a posé des soucis parce que j'ai été usé par ces deux entités, ces deux pôles. Mais pendant un certain temps, il y avait une sorte de passation ou de transfert entre mes propres projets. J'ai quand même créé au sein de ma compagnie en 23 ans.
La compagnie L'Étreinte.
De L'Étreinte, voilà. J'ai
créé c'est très 20... joli comme nom.
Oui, c'est joli, comme une étreinte amicale,
une étreinte,
ou amoureuse. J'ai créé quand même 28 spectacles au sein de ma compagnie en 22-23 ans, donc j'ai fait énormément. Là, elle est un peu en sommeil parce que je vogue vers d'autres aventures et que c'est lourd de porter soi-même tous les projets. Je l'ai beaucoup fait pendant plus de 20 ans, en prenant vraiment en charge plusieurs comédiens, des collaborateurs, en essayant de trouver des moyens de me rapprocher de la presse, des programmateurs, de toute personne un peu influente. Mais j'ai surtout vécu des aventures incroyables avec mes compagnons théâtraux, et j'en vivais aussi des très belles avec mon père. J'ai quand même joué à 12 reprises sous sa direction. Donc l'héritage, il est très puissant.
C'était ma question. Combien de fois vous avez joué?
J'ai joué 12 spectacles sous la
direction. Moi, j'ai vu le souper où
on est à égalité un peu.
Vous êtes à égalité, au niveau des rôles.
Oui, et puis on a commis en scène le Pascal et Descartes qui précède le souper, puisque c'est l'autre célèbre texte de Briseville qu'on a joué 350 fois. Là aussi, on l'a plus ou moins commis en scène. Mais c'est un grand mot, la mise en scène, parce qu'en de ces spectacles, parce qu'au fond, ce sont des spectacles tout à fait modestes au niveau de la mise en scène. Il n'y a pas de mise en scène. Il y a enfin, il y a un petit quelque chose, mais il fallait quand même choisir un peu les costumes, deux, trois moments musicaux ou de son. Il fallait quand même choisir un peu les accessoires, se positionner un peu dans l'espace. Après, il y a tout le travail sur la langue, et ça, ça nous appartient en tant que comédien, presque intimement. De temps en temps, mon père me dit quelque chose, bien sûr. À partir du moment où on est en même temps sur scène, dans le souper ou dans le Descartes, on est à peu près à égalité. C'est-à-dire que je lui dis autant de choses qu'il m'en dit. Par contre, quand je joue Hamlet ou Agatha de Duras, ou Le prince travesti de Marivaux, ou La seconde surprise de l'amour, ou Le prince de Hombourg de Kleist, ou Le diable et le bon Dieu, ou Marie Tudor, enfin, des rôles plus ou moins conséquents à ses côtés, quand il est le directeur d'acteurs, quand il est le patron, si j'ose dire, de la mise en scène, celui qui organise et qui agence, alors là, l'héritage est plus difficile pour moi, sans doute, pas l'héritage, mais le rapport, parce que il est le maître, il faut l'écouter, et à un moment donné, voilà, on se sent, non pas coincé, mais... C'est pas simple d'exister parce qu'il a une patte extraordinaire et une telle précision. Et c'est très impressionnant, c'est extraordinaire. Ça peut être aussi un peu contraignant parce qu'il faut pouvoir trouver son chemin. Comme je suis son fils, c'est d'autant plus difficile. C'est compliqué pour certains comédiens, mais quand on est en plus comédien et donc son fils en plus...
Ça rajoute
avec tout ce que ça implique de bien, de pas bien.
À sa place, quoi.
Voilà, à sa place, voilà. Voilà. Et pas de privilèges, jamais. Privilège. Non, jamais. Mon père a toujours été. C'est pour ça, quand on m'a beaucoup attaqué par le passé, bon, mais c'était le jeu. Je m'appelle Mesguy, je suis attaqué, fils de. Ah, c'est facile, c'est son père. Eh bien, non, je disais souvent aux gens, c'est pas si facile. D'un côté, je regrette plus jeune de pas avoir. De ne pas m'être affranchi un peu plus tôt donc de cet héritage en question. C'est aussi parce qu'il m'a fallu me forger ce caractère dans l'adversité. Si je n'avais pas connu ça, j'en serais pas là. Si je n'avais pas fait du foot, je n'aurais pas fait de théâtre sans doute. Si je n'avais pas été blessé grièvement, je ne jouerais pas dans les forêts de Sibérie. Je serais peut-être entraîneur de foot, je ne sais pas. Je serais peut-être journée sportive, j'aurais fait autre chose de ma vie. Mais en fait, chaque expérience sert la suivante d'une certaine manière. Il ne faut pas regretter le passé. Je ne regrette rien. Je pense que j'aurais pu m'affirmer un peu plus tôt. De notre vision du monde. Voilà, heureusement que je ne suis pas mon père, heureusement qu'il n'est pas moi. Mais il y a une filiation et donc un héritage très puissant, dont vraiment, très très globalement, si j'ose dire, je ne parle pas en ces termes-là, mais je suis très fier parce que j'ai un père génial.
Ça se sent.
J'ai un père génial, absolument incroyable, qui m'a beaucoup appris. Voilà, j'ai quand même plus de 46 ans, donc je suis plus un enfant. Je suis père, j'ai joué dans 70 spectacles, enfin mis en scène et ou joué dans 70 spectacles dans ma vie, ça fait 24 ans que je fais ça, j'ai fait un tout petit peu de télé, de cinéma, j'ai fait de la radio, j'ai fait le récitant, mais c'est vrai que le théâtre occupe les 90% de ma vie.
Voilà, quand je regardais ce que vous aviez fait, vous touchez à la fois le répertoire classique, mais aussi des pièces contemporaines.
Oui, contemporaines, j'en ai fait, j'en ai fait pas mal parce que je travaillais à l'époque avec Philippe Fenwick. Mais c'est vrai que l'écriture contemporaine m'a toujours intéressé parce que je côtoyais des gens qui écrivaient, j'en côtoie encore, et forcément on a envie aussi de défendre certaines œuvres. Alors, n'étant pas ultra confortable toujours financièrement dans la compagnie ou très puissant ou très influent, je choisissais au gré à gré, si j'ose dire, c'est-à-dire que je travaillais avec un auteur dans la compagnie avec qui j'ai créé la compagnie de l'étreinte,
Philippe Fenwick
ouais, qui écrivait, donc j'ai mis en scène quand même
en 98 compagnie
même un tout petit peu avant, mais elle a officiellement pris son envol à ce moment-là, voilà. C'était plutôt il y a 97, 96, et voilà. Et Philippe écrivait beaucoup, j'ai quand même mis en scène 6 de ses textes.
D'accord.
On ne peut pas dire que son écriture ne m'est pas intéressée, j'adorais, je l'adore toujours. Et donc j'ai aussi, la mère de mes filles est autrice, j'ai mis en scène 3 de ses textes, et elle a signé 3 adaptations à mes côtés, donc, et puis j'ai travaillé avec 2-3 auteurs qui étaient proches de moi, mais c'est vrai que j'avais Fenwick, mon ex-compagne, c'était compliqué... Parce que je ne pouvais pas faire 5 spectacles par an.
Bien sûr.
Financièrement, ce n'est pas possible. Il faut choisir. Il ne faut pas trop se tromper. Il faut faire attention.
Faire des bons choix.
Et puisqu'avec Fenwick et ma compagnie, on est partis sur les chemins. Ça, c'est une chose dont je suis extrêmement fier et qui est peut-être le plus beau souvenir de ma vie théâtrale et un des plus beaux de ma vie tout court. Nous sommes partis sur les chemins pour aller porter le théâtre dans les villages. C'est-à-dire que nous faisions entre 20 et 40 km par jour pour nous installer dans un village que nous avions repéré. C'était un an de préparation. Ce n'était pas au hasard, il y a de la lumière, on y va. C'était extraordinaire comme engagement. Des villages entre 200 et 2000 habitants.
Ah oui, des tout petits villages.
Tout petits villages. On voulait vraiment toucher les gens.
Mais dans la France entière.
On a fait
France profonde.
Profonde, oui, comme
j'aime
on dit.
Pas tellement
non,
ce
non,
point,
mais voilà, la région, là où le théâtre ne va pas, où il n'y a que la télé, où il n'y a que les lotos, la fête de la vigne, enfin, où je ne sais pas, enfin, des vignes, pardon, pas de la vigne, mais de
tout. Ça devait être avec des maires qui étaient intéressés.
Oui,
déjà,
bien sûr. C'était un an de préparation. Il y a eu beaucoup de refus, beaucoup d'acceptations. On avait un budget important, soutenu par la Fondation Gaz de France, par les départements franciliens, par les magasins Auchan.
Donc vous avez j'étais à la découverte de
un peu comme
la France des campagnes.
Oui, un petit peu. Tesson, c'est pour ça que je connais Tesson depuis 20 ans, pour revenir, enfin, pour aller un peu vers Tesson. Sylvain Tesson, je connais depuis 20 ans, puisque c'est un très bon ami de Fenwick, de Philippe, et il est devenu aussi un de mes bons amis, par ricochet. Et quand lui partait faire le tour du monde à vélo... nous, quasiment, on partait sur les chemins pour aller porter le théâtre dans les petits endroits.
D'accord. Comment j'allais vous demander quelle était l'expérience qui vous a le plus marqué ou les expériences?
Oui, il y en a plusieurs quand même, bien sûr.
Ouais, parce que...
C'est pas facile de choisir, mais quand même, mes projets itinérants, c'est mes plus grands projets. Parce que, d'abord, je me découvrais moi-même au milieu des autres dans un autre cadre. On n'était plus dans les théâtres avec les fauteuils rouges. On était perdu un peu, mais c'était tellement beau. On découvre la France comme jamais. On marche en Lozère, en Bourgogne. C'est tellement beau, on a marché sous le vent, dans le vent, pardon, sous le cagnard, on a marché dans la neige. On s'est perdu, on s'est retrouvé, on a rencontré les gens. C'était humainement d'une richesse infinie. Vraiment, je pleurais régulièrement tellement je trouvais ça... Alors, je suis très sensible, mais justement, j'étais pour ce partage-là, plus que jamais, cette transmission. Je le suis toujours. Je me suis laissé un petit peu happé par les sirènes du privé et du théâtre un peu plus confortable, peut-être, pas privé, mais aussi institutionnel, les deux, subventionné ou privé, qui n'ont
et
pas...
Ou privé,
et ou privé, qui n'a... C'est deux théâtres qui ont moins à voir avec ce que j'avais vécu avec Philippe, avec ma troupe, avec mes comédiens, parce que tout à coup, on jouait dans un petit village de Bourgogne, de Lozère, de Franche-Comté, je ne sais. Il fallait jouer le plus beau spectacle du monde. C'est ça qui compte infiniment. C'est pas la représentation mondaine. Enfin, en tout cas, et c'est pour ça que je suis pas en porte-à-faux. Je crache pas dans la soupe. Je suis heureux de faire du théâtre à Paris, mais je me pose beaucoup de questions à partir du moment où j'ai beaucoup joué déjà. C'est vrai que j'adorerais retrouver cette non pas cette innocence. Oui, une sorte de naïveté que j'avais aussi à l'époque, une naïveté poétique. J'étais peut-être un peu à l'écart. Mais un écart qui était en fait le cœur du monde. Et donc ça, c'est mes plus grands souvenirs. Après, j'ai joué Hamlet sous la direction de mon père. Hamlet a été un moment charnière où mon père m'a fait confiance pour ce rôle majeur, qui est le rôle paroxystique pour un comédien. Un texte que mon père montait pour la quatrième fois. Un projet qu'il a déjà...
Et qu'il a joué aussi
qu'il a joué lui-même.
À la Comédie Française
ou... Non, il a joué donc, au Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. D'accord. Il l'a joué au Théâtre National de Lille quand il dirigeait le Théâtre de la Métaphore à Lille, le CDN de Lille. Et il l'a joué dans les années 70, pas lui, mais il l'a mis en scène à Grenoble, quand Georges Lavaudan dirigeait la MC, la Maison de la Culture de Grenoble. Mon père était coproduit, et donc c'était son premier Hamlet. Puis le second, au moment de Gérard Philippe, c'est lui qui jouait. Le troisième, au moment de sa direction à Lille, mais c'est pas lui qui jouait. Et là, il me confie le rôle titre, le rôle majeur pour un comédien du répertoire. J'ai failli m'évanouir. Il a attendu longtemps. Il fallait que je fasse mes preuves, justement, que je montre que...
Ah, vous ne sentiez pas légitime, en fait.
Ah, il y a quelques années, non. Quand j'avais 30 ans. C'est pas que j'aurais pas pu le jouer, j'aurais pu le faire, mais j'aurais pas été à ma place. Peut-être, je sais pas.
Peut-être que vous compariez avec le travail qu'il avait fait.
Peut-être, sans doute, un peu. Et puis j'étais encore jeune dans le crime aussi. Oui. Il me fallait du temps.
Dans le crime.
Dans le crime, si je veux dire. Oui, effectivement, je me sentais un peu jeune et il fallait que j'apprenne davantage. Qu'il y ait une maturité. Je crois que je suis à l'âge de la maturité. Je suis pas encore trop vieux, je suis pas non plus jeune maintenant, mais je trouve un équilibre et cet équilibre, il a commencé à partir d'Hamlet, je crois.
D'accord.
Mon père m'a fait confiance.
Le déclic, en fait.
Un peu. Il y a eu 40 ans, 39, 40 ans, donc c'était il y a 7, 8 ans, 6, 7 ans. Et ça a été compliqué, très compliqué, parce que mon père l'ayant joué, mon père connaissant par cœur, traduisant cette version-là, qui est chez Albin Michel.
Oui, parce que c'est lui qui avait traduit. Parce qu'il est traducteur, j'avais oublié de le dire aussi.
Formidable. Il est pédagogue, prof et traducteur. Il a traduit plein de choses merveilleuses, qu'il a vraiment une plume incroyable. Médée ou Hamlet ou le prince de Hambourg, c'est lui entre autres, et il est vraiment très fort de ce côté-là, vraiment un très beau style. Et tout à coup, ça a été un moment incroyable parce qu'il a fallu que je travaille comme jamais j'avais fait les 15 dernières années, les 15 années auparavant. J'ai perdu 11 kilos, j'étais possédé par le rôle. Mais possédé, pas dans le sens où j'aurais été un malade mental. Non, mais parce que possédé, on peut se dire, mais alors il était. Ouais. Non, mais j'étais. Pour le coup, moi qui suis dans l'urgence habité. Je partais dans les rues montmartoises dire mon texte pendant des heures. J'arpentais les rues montmartoises, comme si j'étais à Elsener.
Mais par contre, les gens peut-être vous prenaient pour un fou.
Ah oui, je pense qu'il y a des gens, il y a même des amis, pas 50, mais 2-3 amis qui, à l'occasion de mes périples.
Est-ce qu'il va bien,
d'apprentissage de texte. J'étais dans un moment de. J'étais vraiment presque frénétique. Et quand je revenais le lendemain, mon père traduisait au jour le jour. C'était un peu compliqué la traduction parce qu'il avait un peu tardé à nous la donner. Et en fait, j'apprenais pas la nuit, mais j'avais une capacité pour retenir le texte que j'ai jamais retrouvée, tellement j'étais en phase, au plus près. Quand on est dans cette relation-là, dans cet état, très, très vite, on peut aussi prendre une mauvaise direction dans le travail, avec mon père, avec les autres, de croire que tout à coup... Alors, bien sûr que j'étais pas Hamlet en vrai, mais tout à coup, on est un peu différent. Mais mon père me remettait les pieds sur terre, me ramenait vraiment à la réalité.
Mais rassurez-moi, vous ne vous preniez pas pour un blague quand même, vous sortiez.
Non, mais ça a été une aventure physique et morale et intellectuelle.
Un peu éprouvante quand même.
Éprouvante. Et enfin, ma très grande aventure aussi, c'est sans doute d'avoir mis en scène le misanthrope en Chine, avec des Chinois. Ouais, en Chinois, avec des Chinois. 25 élèves de 4e année de la plus grande école de théâtre de Chine. L'année d'après, j'y suis retourné avec des Fables de La Fontaine. On m'a proposé une production privée, m'a proposé 3 des comédiens. De cette promotion-là qui avait fait le misanthrope. Et donc j'y suis retourné l'année d'après. Puis là, depuis, non plus. Mais le misanthrope en Chine, 5 semaines autour de l'œuvre de Molière, c'était inoubliable. Donc ça, c'est peut-être les 3 plus grandes aventures. Mais je pense que les forêts de Sibérie, maintenant, rentrent dans ce giron-là.
Alors, on va en venir les forêts de Sibérie. Je voulais juste, revenir sur quelque chose par rapport à la mise en scène. À partir de quand vous êtes dit « je suis légitime pour mettre en scène ».
C'est très drôle parce que...
Est-ce que c'est depuis La Fontaine, parce que vous avez...
Un de mes premiers projets, c'était... Enfin, La Fontaine, c'était un petit peu plus tard, et Rublas encore un poil plus tard.
C'est un autre travail, effectivement.
C'est vrai. Alors là, je m'engageais sur un terrain extrêmement glissant. Ouais. Très, très, très dangereux. Dangereux. Risqué. Parce que mon père... est un grand comédien,
mais un immense metteur en scène.
Donc là, j'allais sur un territoire où il était vraiment absolument le maître. Quand j'avais 17 ans, j'étais un peu loin de tout ça, entre 13 et 17 ans. À 17 ans, 18 ans, j'ai assisté quand c'était à Lille, je me souviens très bien, il y avait des répétitions, et puis j'assistais à des petits bouts de répète, à droite, à gauche, je commençais à m'y intéresser, et à plusieurs reprises, quand j'assistais aux répètes, je me disais, dans mon fort intérieur, là, elle pourrait aller plutôt à court, là, à jardin, là, s'écrouler. Voilà, ce serait drôle.
Vous faisiez votre mise en scène,
incroyable,
en fait.
Intérieure, incroyable, mentale, et très modeste, très discrète. Jamais je disais à mon père, « Papa, tu crois pas que là, elle pourrait pleurer ?»
C'était des représentations mentales.
Voilà, Et Daniel, je l'entendais.
Mais vous partagiez ces représentations mentales avec lui, ou les gardiez pour vous?
Pour moi. Pour moi. Dans mon coin, vraiment, à ne pas faire de vagues, ne pas en penser moins. Et Daniel, lui, prenait la main.
Bien sûr, chef d'orchestre, quoi.
Ouais, et puis il racontait les choses. Et tout à coup, il y a parfois des choses, c'était extraordinaire. Des choses qu'il avait dites, et vraiment, je dis la vérité, des choses auxquelles j'avais pensé. À 60%, à 70%, j'avais pas les mêmes mots pour l'exprimer. Alors par moments, c'était totalement autre chose. Lui, il estimait que là, au contraire, elle pourrait rester en place, et tout à coup, le regard comme ça. Puis moi, j'avais imaginé, je sais pas, qu'elle pourrait...
Vous imaginez un déplacement auquel il avait pensé.
Et c'était...
Donc vous êtes
extraordinaire, comme de temps en temps
il y avait des connexions en fait.
Et je me suis dit waouh, j'ai été un peu troublé par ça, sans plus. Et puis c'est seulement quand j'étais chez Pierre Debauche, il m'est arrivé une chose assez incroyable, et c'est de là que tout part, mais il a fallu prendre le risque de cette chose là Pierre Debauche faisait que les élèves présentaient des scènes de fin d'année comme dans tous les cours quasiment, et là on jouait devant des spectateurs lambda qui venaient gratuitement assister aux travaux de fin d'année des élèves, les proches, les gens des autres promotions. On était sur 3 années chez Debauche dans l'école, il y a du jour. Et puis moi, je faisais fin de partie à ce moment-là. J'avais travaillé fin de partie, j'avais travaillé beaucoup, beaucoup de choses. Mais cette fin d'année, c'était fin de partie que j'avais mis en scène parce que je m'étais permis de donner quelques indications à celui qui jouait avec moi. Le rôle de Ham, moi j'ai joué Clove. Et puis, et on avait inventé ensemble, mais j'avais mon mot à dire parce que je me sentais à l'aise, je sais pas quoi. On passe la scène et Debauche vient me voir à la fin, il me dit « C'était remarquable. Est-ce que tu veux, William, créer le spectacle en vrai ?» Je dis « Ah bon, mais je vais mettre en scène le spectacle en vrai, fin de partie de Samuel Beckett. »
Vous avez l'impression.
Et j'avais 22 ans, et 22 ans et demi, et tout à coup, c'était parti.
Le grand bain.
Voilà. Et c'était mon premier spectacle. Et suite à cette aventure, j'ai dit « Fazer, ça dirait le souper ?» Il fait quoi, le souper ? L'autre texte est encore même plus célèbre de Briseville. Oui, moi, c'est pas ma priorité artistique, parce que j'aspire à faire des choses un peu plus folles, mais bon, écoute, laisse-moi, je vais... Et donc, me voilà appelant Philippe Tesson, du poche, et dit « Cher Philippe, après l'inventeur du Descartes, nous aimerions continuer sur cette lancée avec le texte de Briseville et son texte, son autre texte célèbre, même plus célèbre encore, Le Souper. À peine avais-je dit ça, que Philippe Tesson également m'a dit « William, vous êtes chez vous au poche Montparnasse. » Et l'aventure était lancée. J'ai dit ça à mon père, il me fait « Mais comment t'as... Ben, » J'ai appelé Philippe Tesson.
Il était impressionné.
Oui, quand même. T'as appelé Philippe Tesson. J'ai appelé Tesson pour lui demander si ça intéressait. Ça va, j'ai 44, je peux quand même appeler quelqu'un.
Je suis plus un enfant.
Mais ça fait longtemps qu'il était impressionné, parce que quand je faisais nos projets itinérants, quand on les faisait, il était scotché. Et il ne comprenait pas. Il dit « Pourquoi tu fais ça ?» Et c'est maintenant quelque chose que je remets en perspective. Il aime partager, mon père, bien sûr, transmettre, il est un pédagogue exceptionnel, mais il est aussi quelqu'un d'assez intellectuel, il est quelqu'un d'un niveau, comment dire, intellectuel élevé, artistique. Et,
grande intelligence.
Je ne dis pas qu'il ne va pas jouer dans un village parce que les gens n'entendraient pas, mais il a aspiré aussi à... Mais ne parlons pas d'élitisme, de choses élitaires. Oui, oui. Non, mon père est quelqu'un qui veut bien tendre la main à qui veut la lui rendre cette main. Mais à un moment donné, voilà, il ne veut pas transiger. Il a toujours été tellement droit dans ses bottes, peut-être parfois trop, je ne sais pas, ça, je ne suis pas là pour juger. Je suis très différent et j'ai maintenant... Ça fait longtemps que j'ai un rapport au monde différent. Moi, et à l'autre, je voulais vraiment... je veux toujours aller vers les gens. Le tesson, là, me fait encore plus être sûr de moi. Enfin, pas sûr de moi, mais me permet d'aller... pleinement dans cette voie,
oui, alors,
parce que finalement ça m'a de jouer ce rôle-là après tout ce que j'ai fait déjà modestement, mais dans ma vie, dans ma carrière, dans mon parcours, c'est le quatrième pôle très important des spectacles qui compte pour moi, le tesson, je crois.
Vous êtes un boulimique de travail, vous travaillez sur plusieurs projets
en
même temps.
Beaucoup de projets en même temps.
Cette pièce de l'adaptation, l'autobiographie,
c'est autobiographique. Oui, un petit peu de son aventure, parce qu'il a une douzaine de bouquins à son actif, et à chaque fois il raconte un peu son aventure.
Il aime bien effectivement mettre en perspective après dans les livres.
C'est ça. Ce qu'il a vécu. Vécu et vu et ressenti.
Et vu, ressenti. Un peu comme Kersauzon.
Oui, un petit peu. Effectivement. Ou Pierre Rabhi dans un autre.
Oui, genre. Et du coup, donc, vous jouez un ermite, une sorte de Robinson, Crusoe.
Il en parle d'ailleurs beaucoup de Robinson, Sylvain. Il est très touché par le personnage.
Donc, qui se met en retrait de la vie qu'il avait moderne, qui essaie d'échapper aux dictates de la société.
C'est ça. Du bruit, du commerce, de la superficialité, de l'artificialité.
Oui, il dit pour fuir la société. Était hystérique et bruyante.
Ah, oui.
J'aime bien ça.
Ah oui, c'est extraordinaire.
Oui. D'ailleurs, ces références à René Char et tout ça. C'est un être pétri de liberté.
Je dis dans le spectacle, au réveil, mes journées se dressent, vierge.
Qui aime lire,
c'est ça.
Désireuse. Désireuse d'introspection. Donc, comment vous avez.
Offertes en page blanche.
Comment vous avez pu aller justement dans cet univers-là.
C'est bizarre,
qui
est un peu éloigné du mien.
Qui est un peu éloigné quand même de ce
que vous
jouez.
J'ai pu faire dernièrement.
Oui, voilà.
Ah oui, quand je fais Le Dernier Jardin condamné, Les Mémoires d'un fou de Flaubert, ou Pompier, ou Chagrin pour soi, qui est une comédie, mais qui était survoltée, ou Macbeth, ou Artaud, ou Hamlet. Ou même Fouché dans Le Souper, ou même Pascal dans Pascal et Descartes, je suis un peu aux antipodes.
C'est ça.
Voilà. J'ai tenté cette aventure, j'en avais besoin. Je crois que j'étais arrivé à un stade, notamment avec l'Avignon que j'avais fait, où je jouais 5h30 par jour, où je continue à faire beaucoup de choses, je vais en faire d'autres, mais je ne peux plus être sur ce rythme-là, je n'ai plus envie.
D'accord.
J'ai plus envie de... ça a été radical, hein. Comme quoi, il y a des révélations, des déclics, des symptômes.
Mais c'est le texte,
le texte
qui vous a m'a bouleversé. Amené à réfléchir et à repositionner...
Tout à fait. À reconsidérer
le sens de l'existence.
D'une certaine manière. C'est pas des grands mots, mais c'est la réalité. C'est bien sûr que j'avais une conscience de ce que je faisais, du monde. Je suis pas une sorte de trublion un peu hasardeux comme ça, livré. Quand je vais sur les chemins, je sais ce que. Mais par contre, cette frénésie d'enchaînement, de surenchère, il fallait que je casse cette chaîne, cette logique. Il fallait que je. D'abord parce que ça m'a fait du mal à moi-même. C'est une première chose. C'est-à-dire que. Je cours après quoi ?
C'est ça.
Je cours après quoi ? Je veux. C'est quoi la reconnaissance ? De qui ? De quoi ?
Qu'est-ce que je veux prouver ?
Qu'est-ce que je veux prouver ? Que je peux jouer 6, 7, 8 spectacles par jour ? Oui, j'aurais pu. À quoi bon ? À quoi bon ? Or, je me suis dit, et si je lâchais un peu ? Et si j'arrêtais d'être toujours...
Dans la performance ?
Oui, une forme de performance. Et je risquais aussi des choses graves sur scène.
Au niveau de la santé ?
Bien sûr. Je n'en ai pas parlé, parce que j'avais pas... Mais il ne s'est rien passé de grave. Mais j'ai eu des petites douleurs là-haut.
Des maux de tête, des choses comme ça.
Et donc, rupture d'anévrisme ou AVC, ce serait dommage, quoi.
Alors,
je suis tout jeune. J'ai deux filles. Donc, ça veut dire
vous avez une famille.
Voilà, c'est quoi la surenchère, l'engrenage ? C'est de mourir sur scène, c'est de... On m'a mis en garde, et alors j'en voulais beaucoup à ceux qui me mettaient en garde et qui ne m'encourageaient pas, mais je peux entendre, c'était aussi de la tendresse à mon égard, fais attention William.
Je reviens à Sylvain Tesson, mais quand il grimpe aussi...
Ah oui, sur ses façades.
sur ses façades.
Il a une pulsion de... je ne sais pas de quoi, pas de destruction, de mort, mais il frôle... Alors moi, ce n'est pas ça, mais...
Non, mais quelque part, il y a peut-être un parallèle
quand même. C'est pour ça qu'on s'entend aussi très bien.
Il y a une gémellité quand même.
Voilà, bien sûr, et je l'estime beaucoup, et il m'apprécie beaucoup. Il est venu voir deux fois le spectacle, il a adoré. Enfin, il a adoré, vraiment, et c'est ce qu'il m'a dit. Il me dit, bravo, t'as réussi à faire tenir 6 mois, et une immensité dans une boîte d'allumettes, et en 1h10, bravo. C'est quelqu'un de très loyal, de très intelligent. Je suis très heureux de défendre son texte.
Parce que vous mettez en scène.
J'ai été très aidé par Estelle, ma compagne, qui a été très présente à mes côtés. D'accord. Vraiment, elle a été... un atout énorme, parce que sinon, j'aurais été un peu le nez collé à la copie. C'est dur de se mettre en scène
soi-même. Ça lui fera plaisir de... que vous lui rendiez hommage.
Ah non, elle, oui, elle a été extraordinaire. Ouais, elle a fait des choix de musique exceptionnels.
Ouais, l'habillage musical.
Elle continue, de, quand elle vient, de donner des petites notes. Et elle est toujours... Elle a une sensibilité exceptionnelle. Et sans elle, elle m'a prouvé qu'elle était vraiment à un très haut niveau de compréhension, de sensibilité. Et sans elle... J'allais pas dans le mur, mais ça aurait vraiment été moins bien. Mais vraiment.
Donc vous êtes sorti de votre zone de confort.
Oui.
Alors, ouais, c'est pour aller,
un confort violent, parce que ça me mettait dans des états, comme vous disiez, terribles, mais un confort quand même, parce que oui, je sais faire mes grands yeux, je sais tout à coup trembler, et puis voilà, passer d'un truc à un autre. Et là, il fallait de la détente, de la décontraction, de la déconcentration d'une certaine manière aussi, j'allais dire, c'est un lapsus rigolo. Il fallait du silence. Laisser parler le silence, eh bien, il fallait faire résonner la parole de Tesson. Plus que jamais, avec ce qu'il racontait, avec son style, ses aphorismes, ses métaphores. Bien sûr, j'ai toujours un style relativement fiévreux et tout, mais là, je suis aux antipodes. Et beaucoup de gens ont salué cette bifurcation, ce revirement parmi les gens d'après, les gens du milieu. Mais je ne l'ai pas fait pour ça. Je ne l'ai pas fait pour montrer que je suis capable de faire autre chose. Oui, un peu. Allez, 10%. Mais le reste, c'est que j'en avais besoin. Ça veut dire que c'était nécessaire, ça m'était nécessaire. Et ça m'a même bouleversé profondément dans ma vie de tous les jours. Je le dis avec beaucoup de force et de pudeur aussi, mais je le dis parce que, bien sûr que je vais encore beaucoup jouer, et je ferai un Avignon prochain encore important, mais...
Il y aura un avant et un après la pièce de
Parce que
de
on peut faire plein de choses, mais être un peu plus en paix avec soi-même, en paix avec les autres. L'humain, maintenant, aussi, fait partie, il le faisait déjà, à partie de ma vie. De dire ces mots-là tous les jours, je suis très loin du dernier jour d'un condamné que j'adore jouer, Victor Hugo. J'adore jouer le souper, j'adore être Joseph Fouché, dur comme ça, regarder Talleyrand. Et comment je fais pour que tout à coup la Huchette devienne le lac Baïkal? Comment
est-ce
que je
fais cabane,
voilà, de manière imaginaire et par le regard et la parole et les silences et les retournements. Comment je fais pour que les gens s'y croient, comme on dit? Or, beaucoup de gens me disent qu'ils ont l'impression d'être en Sibérie.
Ah, ça, vous avez gagné. Quand
oui, d'une certaine manière, c'est génial. C'est comme ça. quand on jouait le souper avec mon père, les gens étaient comme autour de la table,
Oui.
La présence au mot, la qualité d'addiction, d'élocution sont là. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses, si j'ose dire, d'en faire plus. Et Tesson, Sylvain Tesson et son écriture m'ont entraîné sur ce terrain-là. Ça, c'est exceptionnel. Je suis tellement heureux de le penser, de le vivre.
Qui vous accompagnez dans cette...
Quand je rentre chez moi, je suis pas léger, mais je regarde le monde un peu différemment, parce que moi aussi, je suis à une part de moi qui supporte plus cette vie parisienne, cette vie citadine. Il n'y a pas que Paris. Cette vie urbaine, cette violence, du bruit, de l'hystérie, du commerce, de l'intérêt, de l'intéressement, de la bêtise, crasse, comme dirait Tchekhov, de l'ignorance crasse, pardon. Les gens qui se comportent mal, les gens qui sont malveillants à l'égard des autres, qui veulent faire du mal. Il le dit, Tesson, il dit une chose exceptionnelle. Je pense que vous
pourriez citer.
Vous ne faites de mal à personne, je pense, sur cette terre, vous ou moi, dans la vie de tous les jours, mais il dit une chose encore très, très belle que certains devraient méditer, si j'ose dire, et avoir en eux. Aujourd'hui, je n'ai nuit à aucun être vivant de cette planète. Quand il est face au lac Baïkal, et il finit par dire ne pas nuire. Moi, je regarde les gens et je dis ne pas nuire. C'est-à-dire, c'est pas de la morale, hein, c'est pas une leçon que je donnerais bien pensante, mais vraiment profondément, soyons. Et c'est pas non plus youpi tralala, tout le monde il est gentil. Non, non, j'ai conscience. Chacun son chemin, chacun sa pensée, sa manière de voir le monde.
Il critique pas la société de consommation.
Il est étonnant parce que
le rapport au temps, à l'espace, le rapport à soi.
Comment on peut vivre différemment, comment on peut protéger la nature, quand on sait bien qu'on est en train de flinguer. Ne pas nuire à l'autre, ne pas se nuire à soi-même, ne pas se faire violence, ne pas faire violence à l'autre.
C'est comme une fable écologique un peu.
Oui, mais il est. Il est dans ça, vous avez raison.
Très poétique quand même.
Mais c'est pas le tenant de la décroissance, c'est une écologie un peu militante. Il est ouvert.
Ouais.
Alors on pourrait dire, il prend plus de risques. Non, il n'est pas donneur de leçons, il n'est pas un homme politique. Il est très costaud politiquement, très costaud. Il a une très solide historiquement, géographiquement. Il a une culture exceptionnelle, littéraire, incroyable, historique, politique. Mais lui, il est terre d'accueil. Si certains ont envie de vivre dans le bruit et les centres commerciaux, non pas grand bien leur en face justement, malheureusement, mais enfin ils sont libres, mais lui il a décidé d'aller ailleurs, il a décidé de se retrouver, se ressourcer, de voir le monde autrement, de cheminer avec les cèdres et les ombles, de parler à l'oreille des fourmis, enfin l'oreille, ou des ours ou des lynx.
Et puis de se satisfaire des besoins au jour le jour.
Mais
quoi.
Bien sûr.
Il a froid, il va chercher du bois,
il a
envie de manger, il va pêcher le poisson.
Il le dit aussi, la vie se réduit à...
Il a envie d'avoir un peu de socialisation, il invite des voisins.
Oui,
enfin, c'est ça.
C'est ça. C'est-à-dire une vie simple, finalement, les rapports ancestraux merveilleux qu'on avait. Ouais. Il n'a pas de téléphone, Sylvain, il est un des seuls au monde. Enfin, pas au monde. Il n'a pas de téléphone. Alors, ce n'est pas non plus un risque incroyable, mais quand même, ça marque, c'est singulier, ça marque le personnage. Il faut lui écrire des lettres. Ou par mail de temps en temps. Mais sinon, il flâne, enfin, il est un électron libre. Ouais. Et il veut retrouver quelque chose d'essentiel, de plus profond, de plus réel, qui nous met aux prises avec notre conscience, peut-être, et avec tout simplement qui on est. Mm. Par exemple, depuis quelques années, j'étais dans un engrenage où je ne voyais plus rien. Je me tenais au courant de la réalité, de l'actualité, j'étais au cœur de... Mais au fond, c'était toujours dans une urgence démesurée, c'était toujours... très violent de ne pas pouvoir aller voir les gens, de ne pas parler suffisamment longtemps, de ne pas prendre le temps. Parce qu'il dit qu'il est bon aussi de plus s'intéresser aux choses du monde. Mmh. Et là, voilà, là je ne suis pas convaincu de ça.
Vous n'êtes pas convaincu sur cette position.
Non, parce
qu'il faut rester connecté quand même.
Mais, de savoir qu'en Inde, par exemple, en ce moment, Modi, le Premier ministre, accorde la nationalité aux réfugiés pakistanais, Bangladesh et une troisième nationalité. Bon, à partir de critères religieux... de 6 religions, et donc ils vont pouvoir être
intégrés
et devenir indiens.
Oui, c'est ça.
Mais les musulmans ont été écartés. Mm. 200 millions de musulmans qui vont être considérés comme les derniers de la classe, mais qui n'ont pas ce prix. Comment dire ?
Ces critères.
Pas pris les critères. Ouais. Et c'est un tollé. Enfin, il y a des manifestations, des affrontements, on va en entendre parler beaucoup, parce que l'autre ne va pas lâcher, pas comme en France, mais c'est un peu violent aussi. Et là-bas, c'est pour la répression à outrance, des morts, des. On ne sait pas forcément encore vraiment, mais c'est en train de s'étendre. Et donc, c'est important de savoir...
Ou ce qui s'est passé au Brésil.
Oui, au Brésil. Il est au courant, Sylvain. Il a une culture liée à l'actualité énormissime. Alors, s'il part 6 mois en Sibérie, il n'a pas de satellite. Enfin, il a un satellite, mais il ne s'amuse pas. Il n'est pas connecté avec Google ou je ne sais quoi. Il déteste... il fait parfois avec parce qu'il faut, mais... Non, ce n'est pas une posture. Il est profondément marqué par ça. Et moi, j'ai aimé cette pensée. Elle m'a... Elle fait une petite révolution en moi, je crois.
Allez voir cette pièce qui vous fera réfléchir qui vous fera du bien et qui vous interrogera sur votre rapport au monde.
C'est ça, voilà. C'est très important.
Voilà. Merci beaucoup, William Mesguich.
Merci beaucoup. Merci infiniment.